Je vais nous inviter à tourner notre Bible dans 2 Corinthiens. Nous allons lire les versets 11 du chapitre 12 et nous irons au verset 10 du chapitre 13. Vous savez ce qui est intéressant dans les épîtres de Corinthiens, c'est des épîtres simples à comprendre. Parce que les épîtres adressent les questions de la vie quotidienne courante de l'Église. Les épîtres de Paul aux Corinthiens adressent les questions du vécu en Église. La nature différente, justement, des épîtres aux Corinthiens par rapport à Romains, par exemple. Romains apporte des questions doctrinales qui appellent une profondeur de compréhension, comme une abstraction de notre humanité pour présenter les doctrines chrétiennes, les doctrines de Dieu. Mais Corinthiens, c'est du pratico-pratique. C'est facile à comprendre, mais c'est quand même une difficulté. C'est plus difficile à mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. Dans 1 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'on voit? Je livre son corps à Satan. C'est Dieu, mais c'est simple à comprendre. Mais c'est Dieu. Parfois, c'est dur, n'est-ce pas? La compréhension de ce que l'apôtre Paul va nous dire aujourd'hui est simple. Notre prière, c'est que Dieu nous donne d'abord un cœur ouvert et obéissant pour accepter d'abord et ensuite pour en vivre, pour mettre en pratique. Donc je vais lire pour nous 1 Corinthiens 12. Là, il est écrit au verset 11. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche, des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons par lui, nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père, c'est véritablement notre privilège d'être encore une fois exposés à ta parole. Nous sommes vraiment reconnaissants de cette sainte parole qui est libérée dans nos cœurs. Et au moment où nous voulons en étudier la quintessence, au moment où nous voulons en approfondir la compréhension, nous voulons, Père, nous recommander chacun individuellement à ta sainte grâce, te priant d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, afin que nous recevions favorablement la semence que tu veux y poser. Seigneur, que nous retenions cette sainte parole et que nous en vivions pour ta gloire et aussi pour notre propre bien. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vous allez voir, j'ai pris un titre un peu atypique. Le vrai chrétien ne manque pas de se repentir de son péché. Évidemment, ce titre est directement inspiré par le verset 21, le verset 21 du chapitre 12, qui pour moi est le cœur du texte et que je voudrais, si jamais il fallait que nous retenions une seule chose, que ce soit ce que nous aurons à retenir ce matin. Oui, c'est vrai, merci. Merci beaucoup, je m'étais rendu compte. Parfait. Donc, je vous partage dans la compréhension, hein, parce que j'ai eu beaucoup de joie à préparer ce texte et à en apprendre moi-même de ce que l'apôtre Paul veut partager avec nous. Donc, je l'ai divisé en quelques parties, une partie introduction que j'ai commencé à faire. Par la suite, les versets 1, 11 et 12, c'est « Comment savez-vous que vous êtes chrétien ?» Je m'appuie sur ce que l'apôtre Paul démontre comment il est apôtre. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur ce que nous-mêmes, nous sommes? Un cœur de berger. Les versets 13 à 18. « Avez-vous péché? Repentez-vous. » Ça, c'est la partie qui me touche particulièrement, les versets 19 à 21. Au chapitre 13, nous allons voir l'autorité, la puissance et l'autorité qui viennent de Dieu. Examinez-vous vous-même. Regardez la paille que vous avez dans vos yeux, pas la poutre qui est dans celle de l'autre. Ensuite, nous verrons la puissance et l'autorité qui servent le dessein de Dieu. C'est quoi le dessein de Dieu? C'est quoi la fin, la finalité de l'autorité ou de la puissance que Dieu nous donne? Et nous aurons un petit mot de conclusion. Donc, en guise d'introduction, je rappelle tout simplement que l'église de Corinthe, comme je l'ai dit avant la prière, avait un statut un peu spécial. C'était une église assez difficile. Des fois même, certaines personnes se demandent, est-ce que c'était vraiment une église? Il y avait tellement de problèmes dans cette église-là. Il y avait des divisions, il y avait de l'orgueil. Il y avait aussi des faux enseignants, surtout des gens qui calomniaient beaucoup. Qui contestait le ministère de Paul. Je crois que l'apôtre Paul parle beaucoup de l'impudicité. Donc, il semble que c'était une communauté quand même. Aujourd'hui, là, ce serait difficile pour nous de pouvoir concevoir dans notre contexte aujourd'hui une telle communauté. Dans le message que l'apôtre Paul aborde aujourd'hui, qui est comme la fin, n'est-ce pas, de sa deuxième épître, Paul donc répond à toutes ces contestations. Il défend son ministère. Il défend l'intégrité de son ministère. Il défend sa manière d'exercer l'autorité apostolique, n'est-ce pas? Et puis, à son examen et sa restauration. La terminaison est à la fois amenée sur un ton de paix. Quand il dit paternel, ce n'est pas dominant. Sur un ton de paix. Et puis, il y a quand même une certaine fermeté dans la façon qu'il parle. On sent une petite émotion, hein, et surtout un cœur pastoral, parce que c'est prendre soin qui anime l'apôtre Paul. Donc, c'est un peu le contexte qu'il anime. Donc, la première partie, comment savez-vous que vous êtes chrétien? L'apôtre Paul dit au verset 11 et 12, « J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est pas vous que je devrais être recommandé. » En réalité, l'apôtre Paul n'aurait pas eu besoin de parler de lui-même, n'est-ce pas? Les Corinthiens, qui sont le fruit direct de son ministère, c'est eux qui devraient parler en son nom. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi ce n'est pas ce qui se passe? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes très charismatiques, qui étaient très, très éloquents, qui vraiment parvenaient à captiver l'attention des gens par la force de leurs paroles et à détourner justement, n'est-ce pas, leur regard. Et ils étaient à risque. Quand l'apôtre Paul donc défend son ministère, c'est pas dans le sens de défendre sa personne. En réalité, il défend la parole, n'est-ce pas? Il défend la pureté des Écritures. Il défend la conformité de son enseignement. Et il évoque donc pour son apostolat, il évoque quatre éléments essentiels que je voudrais regarder avec vous. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Et je peux vous assurer que la notion de patience pour un berger, pour un pasteur, est absolument essentielle. Et quand il ajoute à toute épreuve, ça veut dire que notre patience est éprouvée. Notre patience doit passer les tests de notre assemblée, de notre Église. Et comment ça se manifeste justement la patience? Comment, c'est quoi les épreuves de notre patience? Nous faisons face en Église, dans les relations, peut-être à des situations où nous devons reprendre, des situations où nous devons réagir. Et parfois, nous sommes vite dans la réaction. Parfois, nous sommes peut-être plus durs, disons, qu'il ne faut. Et parfois, il faudrait peut-être juste attendre. Mais si nous sommes portés par la réactivité, nous pouvons soit blesser les brebis, soit en perdre quelques-uns. Et je peux vous témoigner, pour l'avoir vécu moi-même, que la patience pour un responsable, c'est quelque chose d'essentiel. Nous avons eu en Église des situations qui étaient complexes. D'ailleurs, pour ceux qui ont vécu la pandémie, qui était la partie la plus complexe personnellement, c'est le seul moment où j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi suis-je ancienne d'Église? Pourquoi ne pas m'épargner? Parce qu'on était dans des situations où, aller à gauche, on voyait 10 000 qui tombaient. Aller à droite, on voyait 20 000 qui tombaient. Rester sur place, on voyait 30 000 qui tombaient. Reculer, c'était une situation incroyable, ce moment. Mais il y a eu d'autres situations, peut-être différentes encore, où on a eu un frère, une sœur, dans une certaine situation où on était embarrassé. Si on reprend directement, le frère ou la sœur peut se décourager dans le ministère parce que c'est quand même quelqu'un qui a un cœur de service. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'on va, on va prier et on va attendre. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose vraiment de vécu. Un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, la personne nous envoie un courriel. Voilà, j'ai décidé de faire telle autre chose, en droite ligne de ce que nous avions l'intention d'adresser. Dieu s'est-il glorifié? Avons-nous été patients? Définitivement, oui. Et la solution a été parfaite. Parfaite parce que la personne n'a pas été blessée et le résultat est quand même arrivé. Donc, quand l'apôtre Paul évoque sa patience comme la preuve de son apostolat, c'est vraiment extrêmement pertinent. Et chacun de nous, vous savez, on est dans un monde de réalisation. On est dans un monde d'accomplissement. Et l'Église n'en est pas épargnée, malheureusement. Nous voulons performer. Nous voulons avoir les bilans. 1, 2, 3, ce qu'on a fait. Ce n'est pas toujours sûr que c'est ça que Dieu regarde. C'est les brebis que Dieu nous confie qui regardent. Dans quel état ils sont. N'est-ce pas? Et ce que Dieu nous demandera, c'est que sont devenus. Ce n'est pas la liste des réalisations. Les personnes qui nous ont été confiées, comment sont-elles? Et c'est à ce niveau que la patience devrait être un indicateur fort de la qualité ou des résultats de notre ministère. L'apôtre Paul ajoute aussi qu'il y a eu des signes, il y a des prodiges et des miracles. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des débats théologiques, hein, les sensationnalistes et toutes sortes de choses. Je ne veux pas vous embarquer. Je vous ai dit, Corinthiens, c'est terre à terre, là, c'est pratico-pratique. Ce n'est pas des études extrêmement théologiques, même comme, il faut quand même l'accepter aussi, notre vécu de chrétien est nourri par notre doctrine. Hein? Parce que je ne veux pas qu'il y ait ce débat. Je sais qu'en Église, il y a souvent des débats, certains qui sont doctrinales, d'autres qui sont pratiques. Il ne faut pas qu'il y ait ça, parce que les deux se valent au même niveau. Notre pratique est nourrie par notre conviction. Si nous croyons des fausses choses, il est fort probable que nous ayons des réalisations ou des applications toutes croches. Donc ici, l'apôtre Paul amène d'autres éléments de son apostolat. Et rappelons-nous, les Écritures disent que par les signes, par des miracles, ils confirmaient qu'il était le Messie. Donc, c'est l'apostolat, le ministère d'apostolat, c'est le ministère de fondation. Et les Écritures nous ont clairement montré que c'est par ces signes-là que Dieu confirmait au peuple juif qui avait été enseigné et préparé à recevoir le Messie, que c'est véritablement le Messie. Et c'est ça qui m'amenait donc à faire le signe. Le titre que j'ai amené. Pour nous, pour vous et moi, comment savons-nous que nous sommes chrétiens. Si on vous demandait aujourd'hui, si quelqu'un vous demande de défendre votre chrétienté, que diriez-vous? C'est quoi l'élément qui serait... Comment pouvons-nous dire à quelqu'un que nous sommes chrétiens? Comment savons-nous que nous sommes chrétiens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Je crois que j'ai mis ça dans mon... Non, c'est bon. Comment savons-nous que nous sommes chrétiens? C'est une question ouverte. 3 secondes. Comment savons-nous? On devrait savoir quand même si nous devons parler que nous sommes chrétiens. Galates 5, verset 22. Définitivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas corrompre. Vous savez, les dons, on peut les corrompre. On peut être un beau parleur, on peut être toutes sortes de dons, n'est-ce pas? On peut corrompre ça parce que le diable se déguise en ange de lumière. Mais le manguier ne peut pas produire de papaye, n'est-ce pas? Donc le fruit de l'esprit, c'est l'indicateur clair de notre chrétienté. Si nous voulons nous-mêmes examiner notre marche avec Dieu, regardons Galates 1, 22. Comment nous nous sentons? Comment nous le vivons? C'est quoi notre confort dans la marche, dans ce que le fruit de l'esprit nous dit? Donc, comment, deuxièmement, un cœur de berger, versets 13 à 18. Donc l'apôtre Paul continue son exposé en évoquant les éléments qui l'ont... cette partie, il parle de sa relation avec les Corinthiens. Il y a un peu d'ironie hein, dans son texte. D'abord, il dit, en quoi avez-vous été traité moins favorablement? Qu'est-ce qui vous a manqué? Mais il dit, je ne vous ai point été à charge. Il ajoute, pardonnez-moi. C'est comme s'il regrettait de n'avoir pas été à charge aux Corinthiens. Mais on comprend que c'est de l'ironie, n'est-ce pas? Parce que juste après, il dit, voici la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Il ajoute encore, je ne vous serai point à charge. Après avoir dit, pardonnez-moi, c'est une façon ironique un peu de le dire. D'ailleurs, dans un autre passage, l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas qu'on lui arrache cette gloire d'avoir prêché sans être rémunéré. C'était précieux pour lui. Donc, il dit qu'il fera exactement la même chose. Il ajoute que c'est aux parents d'être soucieux de ce que les enfants auront. C'est aux parents d'amasser. Mais il y a une petite nuance que l'apôtre Paul amène ici. Et quand il parle d'amasser, il fait un jeu de mots, n'est-ce pas? Il dit, je me donnerai pour le salut de votre âme. Hein? Il dit, pour moi, je dépenserai très volontiers, c'est le verset 15, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc, la dépense ici n'est pas seulement matérielle. Vous voyez, il fait comme un glissement. Il accumule aux parents d'accumuler pour les enfants, mais les parents n'accumulent pas seulement les immeubles ou les investissements ou les comptes en banque. Non, les parents accumulent pour le salut des enfants. Les parents travaillent, hein, les parents doivent travailler pour le salut des enfants. Et il ajoute encore, il pourrait même être moins aimé. Parce que quoi? L'amour, ce n'est pas toujours l'amour gâteau ou l'amour bonbon. L'amour implique parfois un peu de discipline, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit, dussé-je être moins aimé? Il pourrait peut-être dire des choses, faire des choses qui sont moins populaires. Il pourrait dire à l'assemblée, il pourrait dire aux brebis, cette chose-là, vous n'avez pas à le faire. D'ailleurs, vous savez, c'est aussi un enjeu pour notre monde aujourd'hui. On a de la difficulté à reprendre. Et d'ailleurs, la discipline a tendance à être complètement absente de nos églises. N'est-ce pas? Pourtant, c'est quoi qui se passe finalement? On a l'impression qu'on dit amour et on oppose amour à discipline. On oppose amour à reprendre. On a tendance de les mettre sur les paliers différents. Mais pourtant, la discipline procède directement de l'amour. On reprend celui qu'on aime. C'est par amour, c'est parce qu'on ne veut pas que la personne se perde. Et c'est ce que les Écritures littéralement disent. Dieu nous reprend comme un père parce qu'il nous chérit. Et d'ailleurs, Proverbe ajoute encore, celui qui ne reprend pas son enfant, il ne dit pas qu'il ne l'aime pas seulement, mais il le hait. C'est de la haine que de ne pas reprendre ses enfants. Mais ça coûte, hein, ça coûte cet amour-là, ça coûte. Et l'apôtre Paul donc est prêt à reprendre, il est prêt à endurer la souffrance, la douleur de reprendre les Corinthiens, comme à l'exemple pour nous aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. On n'avait pas seulement dit que l'apôtre Paul critiquait ce que lui, il n'était pas à charge. On a aussi dit, ben non, 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 non. L'apôtre Paul, là, c'est quelqu'un de subtil. C'est une grosse calomnie, hein. C'est quelqu'un de subtil. Ah, vous pensez qu'il ne vous a pas pris, non. Il vous a pris ça par d'autres moyens. Il vous a pris quelque chose. Parce que les faux docteurs, les faux enseignants qui étaient à Corinthiens, là, c'est des gens qui, généralement, venaient pour des gains sordides, pour du matériel. Ils venaient prendre de l'argent, généralement. Et pour justifier qu'eux, ils vont prendre, ils disaient, ah non, non, l'apôtre Paul aussi a pris. En apparence, il ne vous a pas pris, mais dans le fond, là, il vous a pris. Et c'est pourquoi il utilise encore notre ton ironique au verset 16 en disant, soit, je ne vous ai point été à charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Donc ça, c'est encore un ton ironique pour répéter un peu ce dont les gens l'accusaient. Donc, l'apôtre Paul, ici, est accusé d'avoir usé de ruse. Il dit, il se défend encore pour dire, ai-je tiré de vous par quelqu'un de ce que je vous ai envoyé? Est-ce que quelqu'un que vous a envoyé a fait quelque chose de différent de ce que j'ai fait? Donc, il revendique encore son ministère. Il dit, même ceux avec qui j'ai travaillé, même ceux que j'ai envoyés, sont allés dans le même sens que moi. Donc, l'apôtre Paul, ici, ne s'est pas contenté de le faire par lui-même, mais même ses compagnons d'œuvre sont allés dans le même sens. Et c'est quoi la deuxième fois que l'apôtre Paul évoque cet aspect financier dans le ministère qui est vraiment important pour ceux qui veulent se consacrer à Dieu, qui veulent se consacrer à la pureté de la prédication. Vous vous rappelez que d'ailleurs, quand il était dans cette communauté, l'apôtre Paul, je crois que c'est avec à Philippe, je ne sais plus dans quelle autre communauté, il travaillait lui-même de ses propres mains pour pouvoir ses besoins. Mais quand ses compagnons qui partageaient la flamme avec lui sont arrivés, il a accepté d'être à leur charge. Donc c'est un don extrêmement important, la liberté du prédicateur vis-à-vis de ses besoins matériels. Et j'ai écouté une histoire, je ne veux pas nécessairement citer ce ministère, il y a un ministère au Québec où les donateurs croyaient que la barbe chez l'homme, c'était spirituel, que les hommes devraient garder la barbe. Je ne vous donne pas le ministère là pour ne pas détourner, n'est-ce pas? Et puis, ce ministère au Québec qui recevait les donations de ces personnes ont exigé aux étudiants de garder la barbe. Donc, les étudiants avaient la barbe parce que le donateur croyait qu'il fallait. Vous voyez, c'est fou. Hein? Donc, l'apôtre Paul évoque une question fondamentale ici. La corruption de notre prédication à cause de la donation. La corruption même de l'acceptation de la pureté de la parole, parce que les Corinthiens disent, oh non, 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 non. S'il fait ça, c'est parce qu'il reçoit ça. S'il dit ça, c'est parce qu'il reçoit ça. Et l'apôtre Paul voulait vraiment montrer la liberté complète de son enseignement. Donc, avez-vous péché? Repentez-vous. C'est ici que l'apôtre Paul amène, à mon avis, le cœur de ce message. Et c'est encore des choses tellement actuelles que je voudrais vraiment que je voudrais prendre le temps pour nous de l'examiner vraiment à la lumière de notre contexte aujourd'hui. Cette partie est vraiment fondamentale parce que l'apôtre Paul reprend ici sur quelque chose qu'il dit. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous, ben, c'est devant Dieu. Car j'ai la crainte que de vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même éprouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver... Non, ce n'est pas lui. 21. Allons-y à 21. Il dit au verset 21, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis d'une sorte de série de péchés. » Il y a quelque chose de particulier. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, hein, je parle dans le contexte de l'Église, quand on apprend que quelqu'un du ministère a péché, oh là là, c'est le scandale. Hein, il y a quelqu'un du ministère, un Américain, un célèbre, puis on avait dit qu'il vivait depuis 2 ans avec une jeune fille, il avait commis l'adultère. Puis, ah, waouh, comment ça se peut, waouh. Et puis les chrétiens, on ne lui parle plus, on lui... Ça, c'est notre réaction du monde. C'est la réaction de l'environnement chrétien aujourd'hui. Et vous savez quoi? Cette réaction à la façade a une apparence de sainteté et de pureté. On réagit spontanément. Non, il a osé faire ça. Comment peut-il faire ça? Comment? Et puis, non, on ne lui parle plus, on lui... Voilà comment nous réagissons aujourd'hui. Et à quelques égards, ce serait compréhensible parce qu'en réalité, Dieu ne veut pas de péché, Dieu ne côtoie pas de péché. D'ailleurs, pour payer le péché, ça a coûté la vie au Fils de Dieu. Donc le péché, c'est vraiment quelque chose de grave. On se comprend bien. Je ne veux pas diminuer l'importance ou la gravité du péché. Mais l'apôtre Paul ajoute quelque chose d'important dans ce texte. Il dit, ceux qui ont péché précédemment et quoi? Et qui ne se sont pas repentis. Et c'est ça la clé pour le chrétien. Dans un contexte de péché, quand on a constaté le péché, le chrétien, le vrai chrétien, se pose la question, c'est quoi l'état de celui qui a péché? C'est quoi la réaction de celui qui a péché? Et c'est en fonction de sa réaction que dépend son attitude. C'est en fonction de la réponse au péché, parce que fondamentalement, là, oubliez ça, là. Colossiens le dit clairement. Nous sommes encore dans ce corps de péché, dans ce corps corruptible. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes susceptibles de péché. Donc, la notion, la probabilité du péché, là, ne devrait pas nous effrayer. Mais le chrétien, lorsqu'il est éclairé par le Saint-Esprit de son péché, il doit pouvoir se repentir. Et c'est ça le distinguo. C'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Pendant que dans ce corps, nous sommes susceptibles de péché, le non-chrétien va continuer joyeusement, parfois même défendre son péché, parfois l'expliquer, justifier par toutes sortes de choses. Mais le chrétien doit se repentir tout de suite. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul souligne « et qu'ils ne se sont pas repentis ». Il va adresser la question de ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Le texte de 1 Corinthiens 5 dont je parlais tantôt, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5 dit à la personne qui allait avec la femme de son père, il va livrer sa chair à Satan. Et dans 2 Corinthiens, il dit que ben, « j'ai entendu qu'il s'est repenti, soyez plus doux avec, parce qu'il s'est repenti ». Pourquoi est-ce que ce point pour moi est important pour nous? Parce que ce péché, cette attitude que nous avons tendance dans l'Église perpétue le péché. C'est quoi que ça va développer? En réalité, c'est quoi qu'on dit à ceux qui ont péché? Ce n'est pas le péché en tant que tel qui nous scandalise, c'est qu'on a découvert le péché. En réalité, la vérité, ce n'est pas qu'on est tellement rebuté. Non. Si ton péché là, tu l'avais bien caché, c'est ça, on serait encore bien avec toi. Donc, notre attitude pousse les gens à développer l'hypocrisie au milieu de nous. Parce que notre réaction est tellement violente, tellement excessive, on ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On ne cherche même pas à comprendre, est-ce qu'il est sauvé, est-ce qu'il n'est pas sauvé, est-ce qu'il est repentant, est-ce qu'il n'est pas repentant. Non, on réagit tout de suite. Et c'est quoi que ça crée? L'hypocrisie. La personne, la prochaine fois, ceux qui voient, lorsqu'ils ont péché, ah, je vais m'arranger à ce que personne ne le voit. Et puis, un jour, je vous raconte une petite histoire. C'est plus dans le contexte du Cameroun que ça se fait. Vous savez, généralement, quand on arrête les gens qui volent, on a tendance à les lapider. Hein, on les lapide, la population, parce que la justice est un peu toute croche. Donc, quand ils vont en police, la personne se retrouve dehors. Et il se dit que lorsqu'on a attrapé un voleur, c'est celui qui est le voleur qui le lapide le plus. C'est lui, hein, c'est son camarade voleur qui veut à tout prix le tuer tout de suite pour qu'il n'ait même pas le temps de dire « Ouh, j'étais avec lui !» Donc, il se dit que la personne qui a volé est le premier. Si bien qu'on a même dit que quand vous arrivez dans cette scène, vous voyez quelqu'un qui lapide le plus, posez-vous des questions, peut-être qu'il a quelque chose de personnel. C'est pour dire quoi? Parfois même dans ces réactivités, dans ces réactions que nous avons impulsives, qui fait le jeu de l'ennemi, parfois des gens qui le font, c'est pour cacher davantage leur propre péché. C'est pour taire leur propre péché. C'est pourquoi je vous dis encore ce matin, mes frères et mes sœurs, nous ne nous laissons pas, nous ne nous conformons pas à ce siècle. Nous ne nous conformons pas à ce que les médias vont dire. Nous ne nous conformons pas aux apparences. Susceptibles de pécher, chacun de nous, vous et moi, nous sommes susceptibles de le faire. Il faut d'abord le reconnaître. Et si cela arriverait, ce que nous regarderons, c'est quel est l'état. Et la Bible nous dit que si la personne vivant au milieu de nous vit dans le péché, oui, et qu'il ne se repent pas, nous ne devons même pas manger avec lui. Ça, c'est correct. Mais nous devons justement nous assurer, c'est comment. C'est quoi qu'il a appris de la chose. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit fondamentalement aujourd'hui. Nous cherchons la repentance. Et je ne vais pas donc m'attarder sur la liste des péchés qu'il dit. Encore, il revient avec l'impudicité, qui devrait être quelque chose de fondamental dans la communauté de Corinthe. Mais la leçon que l'apôtre Paul nous rappelle ce matin, c'est que nous ne nous contentons pas aux apparences et faire des gestes spectaculaires qui vont donner l'impression que nous sommes nous-mêmes sans péché. Allons au fond des choses pour voir est-ce que la personne s'est repentie de son péché. Oh, on a perdu. On a perdu le support. Peut-être qu'il n'est pas content de ce que je dis, peut-être. Donc, on va continuer pendant que bien-aimé nous regarde ça. Quatrième partie. La puissance et l'autorité viennent de Dieu. Verset, chapitre 13, verset 1 à 4. Super. Merci, frère. Donc, dans la suite du texte, l'apôtre Paul revient donc, évoque ce qui anime son ministère. L'apôtre Paul ne fait pas ministère par une répétition. Il n'a pas fait plusieurs répétitions chez lui de ce qu'il va dire pour le dire avec éloquence, pour faire un spectacle. L'apôtre Paul ne prêche pas de façon spectaculaire. L'apôtre Paul prêche par la puissance. Et la puissance qui vient de Dieu. Paul annonce la puissance et l'autorité qui accompagneront son troisième ministère. Donc, et cette puissance est absurde justement, et c'est ça qui m'a un peu impressionné dans le texte. J'ai été assez impressionné parce qu'il y a comme une contradiction. Il parle de puissance et puis il dit que cette puissance se manifeste dans la faiblesse. Et c'est encore quelque chose peut-être d'intéressant pour nous. La puissance et la faiblesse. La puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse, qui se manifeste dans la souffrance, qui se manifeste dans la contradiction de tous les indicateurs humains que nous avons de puissance. Et d'ailleurs, dans une autre place, l'apôtre Paul va dire que quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Il amène ces jeux de mots-là qui semblent nous écarteler, mais il explique aussi en même temps. Il dit que parce que Dieu agit pleinement, n'est-ce pas, dans ses membres. Et c'est quoi que nous comprenons? Notre force propre humaine s'oppose à la force de Dieu. Donc ce que nous revendiquons être en nous comme notre capacité, s'oppose à l'exercice de la plénitude de ce que Dieu veut. La puissance de Dieu se déploie complètement en nous quand nous sommes morts complètement à notre péché, pour que Dieu lui-même agisse. Et dans plusieurs textes, nous pouvons le voir. Parce que la gloire doit revenir à Dieu, C'est encore une façon de ce que Paul dit. Donc la puissance de Dieu qui accompagne son ministère, qui accompagne son voyage, se manifeste dans une totale faiblesse. Ce n'est pas une capacité. Donc c'est une confession. Paul confesse. Donc la puissance, fondamentalement, dont Paul se revendique, vient de Dieu. Et ensuite, donc, il évoque, encore pour la communauté de Corinthe, examinez-vous vous-même. Et cette espèce d'examen de soi-même, c'est un exercice régulier que le chrétien devra faire. Examinez-vous. En quoi consiste valider la réalité de votre foi, confirmer la présence de Christ, confirmer la transformation intérieure qui nous rend dignes de la table du Seigneur. Et j'ai illustré par le miroir où on se regarde et puis on voit à peu près en quoi ressemble. Et c'est la parole qui est notre miroir. Donc, examinons-nous nous-mêmes. Nous ne nous contentons pas d'écouter ou bien nous ne nous contentons pas de supposer. J'ai souvent dit au mari, si vous dites que vous aimez votre femme selon ce que les Écritures disent, examinez de voir la réalité de cet amour en vous faisant toutes sortes de tests vous-même. S'interroger soi-même, c'est quoi la réalité? La femme qui est soumise, je ne sais pas si on a le droit de le dire ici, je sais qu'à certaines places on n'a pas tellement le droit de le dire, mais si la Bible le dit, je prends la chance de le dire ou la liberté de le dire. La femme, examinez, est-ce que vous êtes soumise à votre mari selon les Écritures? Est-ce que c'est réel? Comment vous le savez? Donc l'apôtre Paul invite les Corinthiens ici à s'examiner eux-mêmes, à regarder par eux-mêmes comment la parole fait dans leur cœur, dans leur vie. Pas selon quelqu'un d'autre, mais selon eux-mêmes. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes toujours dans la parole. Et cet examen est extrêmement important parce que parfois nous regardons seulement à l'autre. Et comme je le disais tantôt, on regarde la grosseur de la poutre qu'il y a dans l'autre, de la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais la petitesse de la poutre qu'il y a dans le nôtre, on ne la voit pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit avant de passer à la dernière partie, qui est aussi une partie vraiment très pastorale. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la foi ou pour confirmer, n'est-ce pas, le fruit de l'Esprit en nous. Et enfin, la dernière partie, la puissance et l'autorité servent le dessein de Dieu. La puissance ou la position que nous avons, il faut toujours qu'on l'ait en esprit. Pourquoi Dieu donne l'autorité? Pour l'édification, pas pour la destruction. Donc, Dieu nous appelle à ministère à quelque niveau que ce soit, à responsabilité, à quelque niveau que ce soit, pour prendre soin. Même si nous devons reprendre, ce n'est pas pour briser, ce n'est pas pour détruire, c'est pour prendre soin, c'est pour édifier. Donc la finalité de la puissance que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Et nous devons toujours nous en préoccuper, continuellement nous en préoccuper. Pourquoi? Parce que c'est très facile encore de nous échapper. C'est très facile de nous bomber le torse. Quoi? Tu parles à l'ancienne église? Tu parles au chantre? Tu parles à tel? Tu sais qui je suis? C'est très facile que notre humanité nous pousse à ces choses-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on doit savoir c'est quoi la finalité. On fait ça pourquoi? Pourquoi on exhorte? Vous savez, quelqu'un me partageait l'échange qu'il a eu avec un ancien d'église qui était intervenu dans sa famille pour aider, et puis qui finalement est devenu partie du problème. Il est tellement rentré dans la problématique que lui-même a dit oh « Non, non, je suis contre toi ». Et puis il a commencé à se chicaner jusqu'à une scène surréaliste. Ils sont allés rencontrer l'église parce que le problème initial qui était entre deux personnes est devenu le problème de l'ancien qui accompagnait avec une personne du groupe. Vous voyez-vous? Mais c'est arrivé, vous allez croire, c'est pas inventé ce que vous dites là. Donc on peut très facilement débarquer de la finalité de notre ministère si nous cessons d'être connectés à Dieu. La puissance et l'autorité servent le dessein de Dieu. Et pour terminer, donc quelques éléments pour résumer donc ce que le passage de Corinthiens nous dit. Le vrai ministère se reconnaît au sacrifice et à la vérité, pas au spectacle. Les affaires impressionnantes qui nous font, il faut toujours s'en méfier. Vous savez? L'Église doit traiter le péché avec repentance. On ne va pas se contenter d'être spectaculaire, de faire le spectacle de notre réaction au péché, mais nous devons aller en profondeur pour voir s'il y a repentance. La vraie puissance spirituelle est celle de Dieu et passe par la faiblesse de l'homme, à l'exemple de Christ qui, tout faible, est allé à la croix, mais est ressuscité en puissance par la puissance de Dieu. Chaque chrétien doit s'examiner devant Dieu avant de juger les autres. L'autorité spirituelle vient de Dieu et sert à édifier, jamais à dominer, jamais à contrôler, jamais à manipuler. Application. Est-ce que ma foi est réelle ou seulement spectaculaire? Est-ce que je cherche la puissance visible ou la transformation intérieure? Est-ce que mon influence construit les autres? Et pour terminer, le royaume de Dieu ne repose pas sur l'apparence, sur la force humaine ou sur le prestige, mais sur la vérité, la faiblesse dépendante de Dieu et une autorité qui aime suffisamment pour corriger et édifier. Notre Dieu et notre bon Père qui es aux cieux, nous voulons te bénir pour ces paroles de notre vie quotidienne finalement que tu nous révèles ce matin. Oui Seigneur, nous savons que nous confessons que nous sommes faibles et incapables de mettre en œuvre par nous-mêmes ce à quoi tu nous appelles. Mais nous confessons aussi que la mort du Christ nous fait participer à ta divinité, nous donne la capacité par Christ de marcher comme tu veux. C'est pourquoi nous te bénissons pour ces paroles de ce matin et te prions, Seigneur, que ces paroles produisent du fruit dans notre vie, à ta gloire et au nom de Jésus-Christ. Amen.